Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier bien vivement de votre accueil et féliciter le ministère de la Transition écologique et solidaire et notamment Juliette Franzi, Gilles de Beaulieu, Karine Mangin qui n'est pas avec nous, de tout ce travail qui est fait en faveur du paysage et de la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage et remercier bien vivement l'école du paysage de Blois et Mme Sylvie Servin, de l'État voisin et toutes les personnes qui ont contribué à cette organisation. Et remercier également tous les partenaires qui sont indiqués au programme et les personnes qui sont venues. Alors, pourquoi pour nous, au Conseil de l'Europe, cette organisation et cette manifestation est importante? Je le présenterai, mais tout d'abord, je voudrais vous montrer une image. Une image... qu'il y a des archives départementales du Val-de-Loire-Cher, que je me suis permis de prendre sur le site, qui vient des archives de la ville de Blois, et qui dit « Jusqu'à l'arrivée du chemin de fer en 1846, la première vue que les voyageurs découvrent de Blois est celle qu'offre le faubourg sur la rive opposée. » Et la rive opposée, c'est Vienne. C'est donc grâce à ce point de vue remarquable que Jean de La Fontaine et Victor Hugo qualifient la ville d'amphithéâtre sur la Loire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits magnifiques, mais je peux dire qu'ici, à Blois, et sur cette rive de la Loire, c'est un paysage absolument sublime, je peux dire. Et il y a un point de vue extraordinaire sur le château, sur la chocolaterie et sur le fleuve. Et je peux vous faire une confidence, c'est que mes arrière-grands-parents habitaient 50 rue des Chalands, et c'est là qu'est la maison familiale du côté des parents de maternelle de ma mère. Alors, toute mon enfance, j'ai vu cette Loire, les reflets de la Loire, les grèves, et pu admirer tout ce paysage de ce côté-là de la Loire. Et je ne résiste pas à vous montrer cette image qu'on voit de ce côté, qui dit « Au sein de la ville de Blois, le quartier de Vienne est souvent considéré comme celui qui a le lien le plus fort avec le fleuve. Les hommes vivent au rythme des caprices et des faveurs de la Loire. Si le trafic fluvial a aujourd'hui disparu, les Viennois prennent toujours autant de plaisir à se rendre au bord du fleuve, particulièrement au port de la Creusille, où ils peuvent profiter d'une lumière et d'une ambiance propre au Val-de-Loire. » Et je crois que cette lumière que nous avons aujourd'hui rend bien compte de cette atmosphère qu'il y a à Blois et dans le Val-de-Loire. Alors voilà, c'est la vue qu'on a de ce côté-là, qui est absolument magnifique. Alors, le paysage, c'est aussi... le thème de l'eau, c'est aussi les inondations. Vous savez qu'à Blois également, il y a eu des inondations. Ce pont a été emporté, il a fallu le reconstruire. Et nous avons une pensée, bien entendu, tout spécialement pour le sud de la France, qui est en ce moment la ville de Béziers... Cabillérault, etc., connaissent des inondations terribles. Et c'est là qu'est tout l'enjeu du paysage, comment anticiper, comment prendre en compte toutes ces dimensions très complexes et très diverses du paysage à travers le prisme de l'eau. Alors, je vais présenter les travaux faits par le Conseil d'Europe dans ce domaine-là. Et le Conseil d'Europe, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation intergouvernementale qui est située à Strasbourg, qui n'est pas l'Union européenne, qui a un champ d'application plus large, bien que les deux organisations travaillent main dans la main, je peux dire. Et il y a 47 États membres, donc le siège est à Strasbourg, et les grands enjeux, c'est les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit, et de se préoccuper des sujets qui affectent nos sociétés. Alors, le paysage rentre pleinement dans ces problématiques, on peut considérer, et les questions de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit également. Et donc, c'est pour cela que, le champ d'application géographique couvert par cette convention par le Conseil d'Europe, et les travaux qui sont menés en matière de paysage, que les États soient partis ou non à la convention, et... parler maintenant des journées européennes, journées internationales du paysage du Conseil de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que ces journées? Il y a 3 ans, nous avons eu une réunion sur la mise en œuvre de la Convention au niveau local. Et il est vrai que, aux conclusions de cette réunion, on se dit, c'est vrai que pour être plus efficace, plus effectif, il faut que tout le monde s'empare du sujet, se l'approprie et célèbre, en quelque sorte, entre guillemets, la thématique, qui est une thématique différente chaque année, sur son territoire, ne serait-ce qu'en pensée. C'est pas forcé d'agir de différentes manières, c'est juste de penser à cette thématique. Et donc, c'est pour cela que la première journée a été organisée sur la prise en compte du paysage au niveau local, et le message qui a été lancé à cette occasion venait du lieu de la réunion d'une ville de République tchèque, Brno. Ensuite, il y a eu l'an dernier un événement en Italie, à Tropea, et donc le message a été envoyé, lancé, je peux dire comme une bouteille à la mer presque, à introduire le paysage dans l'éducation. Et cette année, une réunion s'est tenue à Séville au mois de mars, et donc ça a été penser à l'eau et penser à toutes les dimensions de l'eau. L'eau avec l'aspect quantitatif, trop d'eau ou pas assez d'eau, trop d'eau en cas d'inondation, les ravages que peuvent faire des inondations, pas assez d'eau lorsqu'il y a des sécheresses, des situations de stress hydrique, comme on le dit, qui affectent tout particulièrement le sud de l'Europe, et au niveau mondial, on n'en parle pas. Donc, prendre en considération ces questions, et prendre en considération l'eau en tant que élément à boire, l'eau élément de la vie, et la qualité de l'eau, que l'eau ne soit pas polluée par des métaux lourds, que l'eau ne soit pas contaminée avec des déchets, surtout le plastique. Et voilà toutes les dimensions très riches de cette thématique, mais également l'eau que l'on a plaisir à voir, comme c'est le bord de la Loire, l'eau dans les villes, l'eau, les fontaines, les plans d'eau, les rivières, etc. Donc, les waterfronts, j'allais dire, qui est très difficile à traduire en français, les fronts d'eau, on peut dire, etc. Alors, le Conseil d'Europe, avant la Convention du paysage, s'est déjà intéressé à l'eau avec ces dimensions-là. Et c'est vrai que cette Convention du paysage vient compléter ces dimensions antérieures avec ce nouveau regard qui est très général et qui permet d'avoir une approche plus complexe et plus complète de ces questions. Parce que c'est vrai que cette approche paysagère, comme on le dit, peut remédier à des problèmes également comme les inondations ou autres lorsqu'on pense le territoire avec l'ensemble de ces dimensions. Alors, pour être un peu provocatrice, je peux dire, j'ai mis cette petite image, la nuit bleue, l'île de la Terre, c'était l'image que j'avais présentée à la réunion de Séville, parce que notre planète est très belle, c'est vrai, et elle est en grande partie bleue, il y a de l'eau, et donc il faut veiller à ce que cette ressource et à ce que cette beauté demeure. Alors, les travaux du Conseil d'Europe, c'est vrai que le Conseil d'Europe a cette année 70 ans, on célèbre le 70e anniversaire de l'organisation, et c'est très intéressant de voir que le Conseil d'Europe est l'organisation est pionnière dans ce domaine, parce qu'en 1967, il y a une résolution du Comité des ministres qui s'est appelée la Charte européenne de l'eau, qui a été adoptée, enfin vous voyez, mais il y a deux dates, qui est une résolution qui a été faite et ensuite adoptée formellement. Et ce texte, la Charte européenne de l'eau, formule les 12 principes fondamentaux concernant l'eau. Et si vous les lisez, ces principes, ils sont d'une actualité très forte. Et c'est vrai que certains juristes disent parfois il faut mieux moins de textes et des textes que tout le monde connaisse par cœur presque et qui soient effectifs dans les lois, dans les textes, dans les correspondances. Et là, vous voyez rien que le premier principe, il n'y a pas de vie sans eau, c'est un bien précieux, indispensable à toutes les activités humaines. Les ressources en eau douce ne sont pas inépuisables, il est indispensable de les préserver, de les contrôler et si possible de les accroître. Je crois que le temps est compté, je ne vais pas lire, mais je vous invite à lire ces textes qui sont très importants. Et à la fin, on dit la bonne gestion de l'eau, et c'est là qu'on en vient à la gouvernance et à la, et à la gestion des ressources et la dimension transfrontalière, etc. Donc tous ces textes sont très importants et il faut parfois rappeler les textes antérieurs et ne pas uniquement refaire des nouveaux textes, mais appliquer ce que nous avons. Alors, le Conseil d'Europe a continué à travailler dans cette lignée et sous l'angle plus des droits de l'homme, a travaillé dans les années 2000 pour élaborer une recommandation sur la charte européenne des ressources en eau, en voyant l'eau plutôt sous l'angle du droit à l'eau et du droit à la ressource en eau comme l'eau à boire, l'eau potable et les questions d'assainissement. Il y a eu de très nombreux travaux qui ont été faits et ces travaux sont reflétés dans cette recommandation donc de 2001. Alors voilà le texte, les grands chapitres, je peux dire, qui sont fondamentaux et il y a de nombreux travaux qui ont été faits de droit comparé de l'environnement par rapport aux ressources en eau qui permettent de voir comment dans les États européens mais aussi au niveau mondial, comment le droit à l'eau non contaminée est un des tout premiers droits de l'homme. Qu'on ne soit pas obligé d'acheter de l'eau dans certains pays pour pouvoir boire, parce que c'est un enjeu stratégique important. Également, c'est une des sources les plus importantes de conflits dans les années qui viennent. Alors, petit à petit, on arrive au paysage. Et cette Convention européenne du paysage, vous le savez, a été adoptée en l'an 2000. Donc, c'est une, dans la continuité de ces travaux. Et donc, on découvre ou redécouvre, pour dire la vérité, la valeur de l'eau. Et je félicite l'École de Blois qui a organisé cet événement il y a 2 ans sur l'eau et le paysage, parce que c'est exactement toutes ces dimensions qu'il faut prendre en compte. Et donc, on porte un nouveau regard sur l'eau et on s'interroge sur les instruments. Est-ce que nos instruments sont utiles? Est-ce qu'ils sont efficaces? Et comment faire pour les améliorer si cela est nécessaire? Également, avec toute cette dimension sensible de l'eau qui est importante et qui n'est pas négligeable. Alors, cette Convention européenne du paysage, vous le savez, maintenant il y a 39 États qui l'ont ratifiée, donc c'est quand même un chiffre qui est important. Il y a d'autres États, on espère, qui vont le faire. Prochainement, la Convention également, si un État ratifie, va s'ouvrir à des États non européens. Donc c'est une idée qui fait son chemin, qui petit à petit accompagne les politiques publiques. Et c'est une idée qui crée de l'enthousiasme, je pense, réellement, parce que les personnes aiment bien travailler sur cette question. Alors, le champ d'application est important parce que cette convention s'applique à tout le territoire, vous le savez, et elle inclut, c'est écrit en bleu plus visible, les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes. Alors, quand la convention est élaborée, certains se sont dit « qu'est-ce que c'est comment ?» etc. Mais en fait, sur le territoire, il y a des cours d'eau, il y a des rivières, il y a des lacs, il y a des étangs, des zones humides, et ces zones humides ne sont plus à bétonner ou à obliterer, comme on le faisait parfois dans le passé, où on couvrait des rivières dans des villes, je peux dire que je connais dans le sud, des étangs qu'on a fait disparaître, etc. Donc, on peut trouver cette valeur de ces espaces et également la zone côtière avec le front de mer, toute la zone littorale, les zones côtières, etc. Et aussi, on découvre la valeur de l'eau marine avec la mer qui est belle à voir. Il y a eu des observatoires photographiques en PACA sur la vision de la côte de la mer et également une dimension qu'on a explorée à cette réunion de Séville, c'est le paysage sous-marin et c'est une dimension extraordinaire et de plus en plus, oui c'est vrai, il y a des musées sous-marins qui sont créés, on apprend aux plongeurs à veiller à ne pas endommager les récifs de corail, les biens qui sont sous-marins. Et il y a notamment un musée à Lanzarote, je crois, où il y a des statues qui ont été immergées. Et puis, aux Canaries, ils ont fait des atlas des paysages sous-marins. Enfin, je crois que ça commence, etc. Donc, c'est quelque chose de très enthousiasmant. Alors, voilà simplement le présentation du titre de cette réunion qui s'est tenue à Séville, qui est à l'origine, en quelque sorte, de cette journée internationale de l'eau. Et puisqu'on a lancé le message de Séville, faites attention à l'eau en liaison avec le paysage. Alors, voilà l'image que nous avions du pont de Séville, comme le pont de Blois, je peux dire. Et c'est vrai que Séville a eu à faire face à de très graves inondations il y a quelques années. Et Séville est pris entre ces problèmes d'inondation d'un côté et d'un autre côté, l'Andalousie, qui a des problèmes d'alimentation en eau et de sécheresse, j'allais dire. Et donc, comment faire face à tous ces problèmes avec l'agriculture qui s'est développée ces dernières années? Ce sont des problèmes cruciaux et vitaux pour l'économie et pour les personnes qui habitent ces territoires. Alors, vous avez ici le lien où les actes de la réunion seront finalisés. Les actes provisoires sont déjà disponibles et nous essaierons de les finaliser très prochainement. Alors, il y avait, juste pour expliquer, des ateliers et des forums. Alors, les ateliers portaient plutôt sur les politiques publiques, parce que c'est important de voir ce que font les gouvernements et quels sont les textes, les stratégies, les lois en ce domaine, pour voir comment il y a une synergie entre l'eau et le paysage. Et toutes ces expériences de tous les pays ont été présentées, et c'est une source d'information extraordinaire. Que ce soit de la Belgique, de la France, de la Hongrie, où il y a une stratégie nationale qui travaille avec l'agence de l'eau, etc. Donc toutes ces expériences sont présentées. Et les forums, c'était plutôt pour inviter les personnes qui ont fait des initiatives très créatives, à tout niveau que ce soit, à présenter ces initiatives. Et il y a eu notamment la très belle expérience des itinéraires des impressionnistes, avec la présentation des tableaux des impressionnistes avec la lumière de l'eau, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec la mythologie, le symbole de l'eau, parce qu'il y a eu que des présentations extraordinaires. La dimension de l'eau, et c'est vraiment très riche. Et la question des paysages côtiers et marins, avec toute cette dimension sous-marine, les espaces côtiers, les observatoires photographiques, et enfin la citoyenneté, parce qu'il faut que les citoyens s'engagent et soient actifs et acteurs, on peut dire, et comment participer et comment revendiquer ce droit à l'eau et comment agir de ce point de vue-là. Alors, juste pour être bref maintenant, les politiques publiques sont présentées sur le système d'information de la Convention du paysage. Il y a un portail où les États sont invités à remplir ce système. Alors, c'est vrai que c'est fastidieux, c'est ennuyeux, mais on espère que petit à petit les États puissent le faire, parce que c'est à partir de ça qu'on va extraire des rapports comparatifs des politiques publiques. Et cela sera visible très prochainement sur la plateforme d'information de la Convention. Alors voilà le portail, ce que vous voyez, vous pouvez rentrer dans les pays qui l'ont rempli. Voilà. Et ensuite, il y a des expériences concrètes qui sont collectées à travers le prix du paysage du Conseil de l'Europe. Alors, ce prix du paysage, vous savez qu'en France, c'est le Grand Prix national du paysage, et qui présente le lauréat. Et toutes ces expériences, évidemment, malheureusement, il y a un lauréat par année, ce qui est peu et ce qui nous rend malheureux, je peux dire, parce que tous ces projets sont très extraordinaires. Et donc l'idée, ça a été de les collecter dans cette alliance du prix du paysage du Conseil d'Europe, qui les rassemble et qui les présente comme des expériences d'excellence. Et donc, au fil des ans, il y a eu des projets, j'ai essayé de sélectionner certains qui traitent de l'eau. Alors, le parc de l'Adol, par exemple, qui, après avoir reçu le prix, a décontaminé le fleuve, des expériences en Finlande, en Hongrie, la côte marine de Durham au Royaume-Uni, qui était complètement noire et polluée. J'ai pas le temps de présenter tout, mais il y a aussi des expériences de piscine, comme le port loisir du port de Cerise, qui est très joli également. C'est donc l'eau également comme loisir, comme espace de lieu de plein air. Et d'ailleurs, ça concerne également la dépollution des fleuves, où on peut se baigner, profiter de ces espaces comme lieu de divertissement. etc. Alors, la Serbie a organisé également un événement pour la Journée internationale de l'eau avec le partenariat de cette zone, qui est également une zone fluviale et qui est très importante parce que c'est aussi un symbole politique. C'est à la frontière de la Slovénie et la Slovénie, et donc il y a toute une dimension politique, et la Serbie avait reçu cette mention du prix pour répondre aux idéaux de la paix en Europe, parce que c'est des actions de coopération transfrontalière pour le paysage. Et donc, pour la troisième session, vous voyez encore tous ces projets extraordinaires, je peux dire, en Pologne, en Irlande, où il y a eu un plan de paysage pour toute une île, aux Pays-Bas, qui est le pays de l'eau, je peux dire que la terre a été gagnée sur l'eau, au Portugal, où des zones entières, un lac interne de l'île a été complètement décontaminé, en Slovénie, la côte a retrouvé sa valeur. Kuldiga en Lettonie, les Pays-Bas à nouveau. La cinquième session avec de très beaux projets. À chaque fois, j'emploie des superlatifs, mais c'est vrai que c'est le parc écologique de Lana, un couloir bleu-vert tout près de Oslo, comme c'est la trame verte et bleue, aux abords d'une ville où les personnes peuvent profiter de leur paysage. Après la République slovaque, la Réunion en France, le projet que vous connaissez, le paysage comme relation, le très beau projet aussi à Larissa, une ville qui avait été détruite, bombardée et détruite par les tremblements de terre, où une sculptrice a recréé des fontaines et des cours d'eau qui sont très appréciés de tout le monde, avec un art contemporain. Et pour la sixième session, c'est un nombre impressionnant de projets qui concernent l'eau, finalement. C'est le hasard, je peux dire. Mais vous voyez tous ces projets qui concernent l'eau, et le premier qui est, je peux dire, le comité des ministres est venu la semaine dernière, enfin le 16, et ce cours d'eau a été lauréat du prix. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une partie transfrontalière avec la France, et nous sommes très heureux d'organiser la prochaine réunion du forum des projets du prix du paysage pour présenter l'ensemble de ces projets, et ce projet suisse et français en particulier. Alors vous voyez tous ces projets qui concernent l'eau, que ce soit en Belgique, en Géorgie avec un canyon, le lac Karla en Grèce, l'Ista, c'est une zone côtière en Norvège. Je peux vous dire, je ne suis pas allée voir tout ça, mais à force de lire tous les documents, on apprend tout ça, et c'est quelque chose de très positif et incroyable. Et aussi en Italie, entre terre et mer, c'est une loi de gestion de la plaine du Pô. À Rouen, malheureusement, il y a eu cet accident, mais cela n'empêche pas que le travail réalisé est extraordinaire pour requalifier les rives de la Seine. En Finlande également, au point de vue de la législation, c'est un projet où l'espace urbain et naturel se mélangent. En Turquie, avec un atlas des paysages du bassin de Yeşilmak, etc. Alors, donc, il y a sur le site cette alliance du prix qui est présentée, avec tous les petits points qui montrent où il y a des projets de ce type. Et puis, des publications, vous l'avez en lien, et nous préparons la prochaine. Et puis, juste pour dire qu'il y a une recommandation du comité des ministres qui demande aux États d'inscrire le paysage dans la durée. Et vous qui connaissez la thématique, c'est vrai que c'est fondamental, parce que l'échelle de temps du paysage est longue, et c'est pas en peu de temps qu'on peut résoudre certains problèmes. Et ce texte montre également l'importance du paysage pour l'esprit, pour le mental, comme source d'inspiration, mais également pour le corps, pour la santé. Et pour l'eau, c'est fondamental, parce que si on voit de l'eau polluée, on a des problèmes de santé. Et donc, ces liens sont très importants à présenter. Et etc. Je ne peux pas dire tout, mais c'est toujours l'esprit du développement durable, de la gestion durable, etc. Et puis voilà la petite fleur qu'on a présentée, la fleur du paysage, avec le paysage qui implique des droits et des responsabilités et qui concerne un petit peu chaque secteur, les droits humains, la nature, un peu sur l'économie, la démocratie, la société, etc. Alors, pour terminer, il faut dire que l'être humain a une responsabilité à l'égard du paysage en général et de la ressource en eau en particulier. Mais c'est très satisfaisant de voir qu'il y a une sorte d'éveil de cette conscience qui se manifeste ces dernières années. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir la télévision ni lire un journal sans qu'on parle d'environnement, de paysage, de nature, de culture, de patrimoine. Et toute cette approche est satisfaisante. Et donc, il faut poursuivre cela. Juste pour se souvenir que si on prend la question de l'eau à l'échelle mondiale, il y a quelques années, Kofi Annan avait tiré la sonnette d'alarme en disant que si d'ici à 2025, on ne prévoyait pas de solutionner ces problématiques, on aurait des problèmes dramatiques. Et cette année 2025 approche. Et c'est vrai qu'il faut vraiment veiller à ce que, non seulement à l'échelle européenne, mais à l'échelle mondiale, on appréhende ce problème sérieusement. Donc l'idée de ce travail était de se soucier de cet aspect de l'eau avec ses problèmes sérieux et dramatiques parfois, mais également de l'eau plus légère, l'eau source d'inspiration, l'eau qui a sa valeur symbolique dans les religions, dans les pratiques, dans la littérature, dans la culture, dans l'art, etc. Et pour terminer, juste pour citer une petite phrase qui avait été cité à l'époque par un poète quand il y a eu les expéditions à Apollo, qui était très joli, qui disait « Contempler la Terre telle qu'elle est, réellement petit joyau bleu, flottant dans un silence éternel, c'est réaliser que nous sommes des passagers solidaires de la Terre, frères pour l'éternité, sur cette beauté multicolore au milieu du froid éternel. » Je vous remercie.